dans une taverne du vieux Londres, où se retrouvaient des étrangers. Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre, et nous écoutions nos cœurs chanter.
Madame Ginette, bonjour, monsieur Kogan, bonjour, monsieur Edmond, je m'ennuie bien et dans la place.
Bonjour, madame Henriette. La guillerette. Non, c'est pas ça, bon, d'accord. Wow. Bon, ben, bonsoir à tous, bonjour, bonne nuit, bon matin, on s'en moque, vous pouvez nous écouter quand vous voulez. On est toujours là, quelque part.
Profitez des libertés qu'il reste.
C'est ça.
Alors, quelques trucs glanés sur le web et la presse intersidérale. Celle-ci qui n'aura pas échappé évidemment à M. Kogan. Boulette, États-Unis, le secrétaire à la défense, Pete, je ne sais pas comment on dit, XCS. Croyait citer la Bible, c'était en fait du Quentin Tarantino. Ouais, il est toujours aussi doué, lui, hein. C'est magique. Ce type est magique. Voilà, bon, c'est pas grave. En plus, c'est bien parce qu'il n'arrête pas de citer Dieu, mais visiblement, il n'y connaît absolument rien. C'est magique.
L'évangile selon Saint Quentin, on ne connaît pas pour l'instant.
C'est ça.
Ouvrez les guillemets. « Quand Kadhafi m'a tendu un sac, je croyais que c'était des dates. Au procès libyen, le spectacle jury. » Il n'a honte de rien. Comment ça, c'était un sac avec des soutes dans... non, mais écoutez, non, monsieur le président, non. Alors c'est bien, c'est en train de se craqueler partout en plus.
Oui.
Là, ils commencent à tous se tirer dans les pattes.
Alors, c'eût été donc un sac plein de dates. D'accord, très bien.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors ce titre qui, évidemment,
alors,
je l'ai gardé.
Ceci
parce que...
dit, il s'en sort bien. Parce qu'au lieu du procès, ça aurait été le diabète.
Ah.
Parce qu'un sac de cette taille-là...
Ouais. Soupçonné du meurtre d'une adolescente retrouvée démembrée dans sa voiture... L'artiste américain, alors je ne sais pas comment on dit, D4VD, inculpé pour assassinat, comme c'est étrange. Bon, c'est assez sordide.
Pour un
coup,
ça commence à sentir vraiment le roussi pour lui, il a beau dire que ce n'est pas lui, il n'y a pas de caution.
D'accord, ouais, non, ça pas...
Et ça, c'est mauvais signe.
Ouais. Bon. Bah, après,
un peu, ouais.
Je crois qu'elle avait 14 ans, la fille, c'est quand même...
C'est sinistre. Cette émission est censée être un peu du divertissement quand même.
Eh bien, alors écoutez, à Buenos Aires, une rêve géante en hommage au pape François.
Yes !
De mes articles.
Ah, pardon, je ne savais pas. Pendant
c'est pas grave.
Mais vous nous donnerez des détails comme ça, madame Gilles. Parce que je ne suis pas allé voir. Alors, peut-être c'est un autre que je vous vole. Madonna. Non, on peut parler de Madonna.
Non.
Qui a lancé un avis de recherche puisqu'elle a participé au Coachella, machin, là. Et elle a perdu sa robe.
Comment ça, elle a perdu
Est-ce
sa
qu'on
robe
lui a piqué Est-ce qu'elle s'est égarée? On ne sait pas. Et elle y tenait beaucoup parce qu'apparemment, c'était une robe vintage qu'elle adorait. Machin.
Vérifiez tous vos sacs. Si vous avez la robe de Madonna, il faut lui dire.
Un autre type de déguisement en Californie, déguisement d'ours, fausse griffure et Rolls-Royce. Trois personnes condamnées pour une arnaque à l'assurance auto.
Quoi?
Ah oui, ça peut aller très loin pour arnaquer les assureurs jusqu'à se déguiser en ours. Bon, c'est pas
alors,
mal. C'est
le
pas
mec
mal.
Se déguise en ours pour griffer avec sa fausse patte d'ours sa Rolls-Royce pour essayer d'extorquer de l'argent à son assureur. Mais c'est un créatif, il faut pas qu'il, enfin, faut qu'il se lance.
C'est ça, faut qu'il aille à la Biennale de Venise, apparemment il y a de la place. Alors, le jardinier sans papier de la famille Le Pen expulsé vers le Maroc par le préfet des Hauts-de-Seine. Bon, allez, on va suivre. Ça m'a fait rire, je ne sais pas pourquoi.
Bon, c'est pas très drôle, hein.
Pour lui, non, c'est vrai. Surtout qu'apparemment, il est là depuis très longtemps. Mais bon, il est tombé sur, je crois, le pire préfet de France au niveau de ce genre de cas. Apparemment, il s'est mis en tête, le préfet des Hauts-de-Seine, d'en raccompagner le plus possible et de... Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas si les préfets ont le droit d'être aussi vindicatifs, mais bon. Alors, en laissant, dans le monde du football, on sent que c'est toujours aussi gentil, on va dire, guiré. Coupe du monde 2026. Un émissaire de Donald Trump propose de remplacer l'Iran par l'Italie.
Parce que les Italiens, ça commence pareil.
Ils n'ont pas réussi à se qualifier, donc finalement, comme les Iraniens seront
les
peut-être...
Les Italiens ne se sont pas qualifiés.
Et non, pour la troisième fois consécutive, je crois. Donc,
c'est un drame national. Hein. Ouais. On ne se rend pas compte, mais c'est un drame.
Non, on ne se rend vraiment pas compte.
La squadra azzurra, voilà.
Ah ouais, donc oui, mais il faut quand même expliquer aux Américains que c'est pas parce que c'est la même initiale que c'est le même pays. D'ailleurs, ce serait bien de leur expliquer parce que actuellement, une erreur serait funeste.
Ouais, mais bon, en attendant, les Iraniens seront peut-être pas disponibles, hein ? Parce que est-ce que le détroit sera ouvert ? Est-ce qu'il sera fermé ? Est-ce qu'il sera ouvert ? Est-ce qu'il sera fermé ? On ne sait plus.
Et oui, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux, à ce stade-là, il vaudrait mieux installer une chatière.
Oh, madame Henriette, ami des châteaux.
Oui, mais si c'est un détroit, si.
Si c'est un détroit,
c'est qui les deux autres ? Allez,
voilà. Oh, bravo !
Merci. Voilà. Ça y est, monsieur Kogan est prêt pour Kaamelott.
Oui, parce que c'est une référence à Kaamelott. Oui, bravo.
D'abord,
oui, je vous en prie. Allez, quelque chose qui nous a fait bien plaisir, hein, à monsieur Kogan et à moi-même. Un fragment de l'Iliade d'Homère retrouvé dans la tombe d'une momie. Et c'est dire si les Égyptiens n'y connaissaient rien, puisqu'ils s'en étaient servis pour embaumer la momie. Hein.
Ah ouais, d'accord.
Donc le machin a été repéré, on ne sait pas trop comment quand même, mais bon.
Voilà. Comme quoi la guerre culturelle ne date pas de Bolloré. Voilà. Et voilà.
Et oui, en effet, on a eu du bol, ils auraient pu emballer du poisson avec. On ne l'aurait jamais retrouvé.
C'est ça.
Alors, je voulais revenir ensuite brièvement sur ces fameux 150 grands projets stratégiques annoncé par notre président bien-aimé il y a quelques heures, quelques jours. Et d'ailleurs, Madame Henriette m'a fait remarquer qu'il était affublé d'un fort joli casque.
Un couvre-chef qui lui sied à ravir.
Ouais, magnifique.
Le plastique, ça ne va à personne de toute façon.
Donc 150 grands projets stratégiques.
Et puis la couleur ne flatte pas le teint, non. Ça c'était une évidence dès le départ.
Appelé à devenir, ouvrez les guillemets, des cathédrales industrielles. Puisqu'évidemment, il n'a pas arrêté de dire que ce qui avait été fait sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, voilà, les travaux menés en un temps record, tout ça, l'argent qui a coulé à flot, bon, bah, il faut faire pareil. Alors, vous allez voir, c'est magnifique. Alors, je remercie quand même le Journal des entreprises, puisque c'est le seul qui a fait un article dans lequel on pouvait trouver, alors pas tous, mais un certain nombre de ces 150 grands projets. Voilà. Il y a beaucoup d'articles qui ont fait... Voilà.
Et donc, dans toutes les usines, on va retrouver des vitraux. C'est génial.
Ouais, vous allez voir. Alors, vous allez voir, il y a certains projets, j'ai envie de dire, en faire des cathédrales industrielles. Bon, je ne suis pas sûr.
Alors,
on va filer donc du fric public, par exemple, à Derichebourg, qui est une grosse entreprise.
Alors, je pense que c'est Derichebourg.
Derichebourg ?
Oui, c'est Derichebourg. Je travaille avec eux, donc je les connais.
D'accord. Ah oui, bah, oui, parce qu'ils
alors,
travaillent...
Alors, attention, conflit d'intérêts, Monsieur Kogan, vous n'avez pas le droit de parler.
Ils travaillent...
C'est donc vous, Monsieur Kogan.
Alors, ils travaillent, oui, parce que c'est un gros groupe hein, qui a plein de marchés pour le nettoyage des villes, notamment, qui fait beaucoup de recyclage.
Et des musées.
Et des musées, enfin, de tout un tas de trucs. Et donc là, ils ont un gros projet de recyclage des ballons d'eau chaude. Voilà, donc c'est ça, l'argent public va couler sur cet énorme groupe pour essayer de mettre au point cette filière de recyclage des ballons d'eau
chaude. Alors, figurez-vous que l'intérêt du recyclage des ballons d'eau chaude, c'est que les ballons d'eau chaude contiennent des matériaux extrêmement polluants et qu'il ne faut pas les mettre en déchetterie. Vous l'ignoriez, j'en suis sûre.
C'est-à-dire que
qu'est-ce qu'ils vont mettre des vitraux sur les ballons d'eau chaude ?
Oh, ça serait super. Et des vitraux qui changent de couleur pour savoir si l'eau est chaude ou pas.
Alors... Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Ce n'est pas très clair pour l'instant. C'est un projet, mais bon, on va
en tout cas, Madame Ginette et moi, on a des idées, hein, si vous voulez monter des projets.
Et ce qui va vous intéresser, Madame Henriette, c'est une histoire qui est arrivée dans le groupe de Richebourg. C'était il y a quelques années. Et malheureusement, je n'ai pas pu trouver la conclusion de cette histoire. Pourtant, j'ai fait des recherches. Et donc, c'est en 2018.
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ?
Ben, hélas, non. En 2018, alors c'était pas directement le groupe de Richebourg, c'était l'un de ses sous-traitants, parce que ces gros groupes, c'est toujours sous-traitants, sous-traitants, sous-traitants. En tout cas, pour et donc ils font le nettoyage à Paris, des rues et tout ça. Et Adama Cissé, agent de la propreté, donc, était au prud'homme, puisqu'il avait été licencié suite à une photo d'une Parisienne qu'il avait prise alors qu'il était en pause et qu'il s'était allongé et qu'il avait enlevé ses chaussures. Et donc, elle avait mis un truc très injurieux dans son tweet en disant que c'était lamentable, qu'on l'ait payé une fois de plus à rien faire. Et l'entreprise n'avait rien trouvé de mieux que de le licencier. Donc, évidemment, il a contesté...
Pour enlevage illicite de chaussures.
Il avait contesté la décision devant le tribunal des prud'hommes de Créteil. C'était en 2018. Normalement, on aurait dû trouver la réponse, son truc, en 2021. Mais je n'ai pas trouvé. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a perdu? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a un site spécial pour voir toutes les affaires des prud'hommes? Est-ce que c'est possible, ça, ou... Je ne sais pas.
Non.
Alors, est-ce que c'est monté jusqu'à la Cour de cassation? Est-ce qu'on a un arrêt de la Chambre sociale sur l'enlevage de chaussures qui ferait jurisprudence? Ce serait formidable.
Oui, enfin, rendez-vous compte quand même, Madame Ariette, ça vous fait ricaner, mais enfin, c'est quand même une photo volée, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas demandé son... On l'a publiée sur un compte Twitter, ce qui est totalement interdit, évidemment. Et en plus... Enfin là, je suis désolé, quoi. S'il était en pause, je vois pas en quoi il n'a pas le droit d'enlever ses chaussures. Enfin bon, voilà, on n'a pas la décision, je ne l'ai pas trouvée. Vous chercherez, vous me direz si vous la trouvez, mais je ne l'ai pas trouvée.
Vous n'êtes manifestement pas au fait du management dans les entreprises de ce pays, monsieur.
Non, ni de la prud'homie. Alors, dans la liste des trucs, bon, alors, il y a beaucoup de trucs militaires, évidemment.
Alors, chers auditeurs, s'il y a des enfants dans les parages, rapprochez-les de votre appareil, de votre transistor, puisqu'on apprend des mots dans cette émission.
Bon, des grands projets stratégiques.
Les GPI.
Ah ben non, ça dirait GPS, non? C'est GPI.
Les grands projets inutiles, non, c'est pas ça.
D'accord, ok. Alors justement, il y en a un, c'est un tableau assez joli qu'avait fait le Journal des entreprises, en alternant une ligne bleue et puis une ligne bleue moins foncée pour qu'on puisse s'y retrouver. Et en lisant vite, quand même, j'ai vu en moyenne, j'ai vu l'entreprise, ils allaient filer du fric au gogo. Non, alors j'ai relu, non, en fait, c'est le goco. C'est pas très facile à dire, quand même. Alors je suis allé voir de plus près, parce que quand même, ça m'a étonné. C'était le goco. Alors là-dedans, depuis 2021, donc c'est un espèce de groupement avec Heidelberg Materials, Lafarge Ciment, Loïs.
Il y a eu du changement au niveau management chez eux, je crois, récemment. Là.
Ouais, c'est ça. Natran et LNG. Alors, ils travaillent tous, évidemment, dans des trucs qui polluent à mort, parce que bon, ils font du ciment, tous ces genres de trucs, four industriels, bon, machin. Et alors, ils ont décidé qu'ils allaient capter à la source, donc à la sortie des fours cimentiers et des fours à chaud, le CO2. Ils vont faire des oléoducs à CO2 et puis après, ils vont réfléchir à ce qu'ils vont en faire.
Et oui, mais
alors, sans doute, ils vont le réinjecter dans des formations géologiques profondes en lui disant « Tu restes là, tu ne vas pas dans l'atmosphère. »
Alors, c'est là qu'il était, en fait, avant d'être libéré par la combustion des hydrocarbures. Oui, il était là, sous terre et c'est, voilà
donc,
ce qui arrive.
Donc, il faut y remettre. C'est ce que vous voulez dire, Madame Ariette.
Alors, je ne sais pas s'il faut l'y remettre, mais en tout cas, ce n'est pas très étonnant que du CO2 qui était sous terre et qui n'y est plus pose problème.
Alors,
il fallait quand même pas avoir une grosse formation scientifique pour le comprendre.
Pour l'instant, le projet, un petit projet, de 2,5 milliards d'euros, en est au stade des études de préfaisabilité. 2,5 milliards pour faire de la préfaisabilité, pour savoir si on peut capturer le machin et le remettre là où il était, comme dit Madame Ariette.
C'est du papier, c'est du papier épais, non ?
Ils ont réussi à se glisser dans les grands projets stratégiques. Alors, ils espèrent, à partir de 2031, économiser 2,2 millions de tonnes de CO2 par an. Vous voyez un peu ce qu'ils peuvent balancer dans l'atmosphère.
Alors, bon. Ça représente quoi de leur
représente
de la production
de la leur, je ne sais pas. Et pour eux, ils disent que ça représente l'équivalent des émissions annuelles de la métropole de Nantes. Autant dire rien du tout, mais bon, c'est comme ça. Ça fait cher le CO2 quand même. Alors, j'ai appris que maintenant, on ne parlait plus d'usines d'armement, mais on parle de groupes spécialisés dans les hautes technologies pour la défense.
Ah ben oui.
Alors,
oui,
par exemple,
comme Arcus qui fabrique des...
Voilà.
Des camions et des porte-canons, c'est vrai que c'est très, très spécialisé.
C'est très spécialisé. Alors là, c'est pour Thales. Et la photo qui illustre, vous voyez clairement le mec en train de créer, de façonner des obus. Donc, l'obus comme haute technologie pour la défense, bon, ouais, enfin, je veux bien, c'est un peu dépassé. Enfin, c'est un peu
ça
vieux,
dépend
quand même,
à quelle époque vous vous placez.
Alors, dans les entreprises auxquelles on va donner de l'argent public, on trouve aussi EDF. Bon, bah, je savais pas que. Et alors, tout ça pour faire quoi? C'est pour essayer de faire quelque chose d'un site qui s'appelle Fessenheim.
Ah.
Là, on peut faire une belle cathédrale, je pense, qui s'illumine toute seule la nuit et tout. Un autre groupe, je pense, qui avait besoin d'argent public, le groupe Google, pour l'implantation d'un data center dans l'Indre. Hein, je pense que là, c'est effectivement urgent de lui donner de l'argent. Comme ça, après, l'Europe essaiera de lui réclamer tout l'argent qu'elle ne paie pas, que l'entreprise ne paie pas. Non, mais c'est d'une logique imparable quand même. Un autre groupe qu'on trouve...
Oui, mais ce n'est pas comme si c'était de l'argent public.
Non, c'est vrai. Et alors là, je pense que ça va être la plus jolie des cathédrales, puisqu'on va donner de l'argent public dans ce grand projet-là au groupe LDC pour la création d'une usine d'abattage de volailles.
Ah.
Alors là, ça va être de la cathédrale, laissez-moi vous le dire. Alors je suis évidemment, comme je suis un peu mesquin, allé voir qui était le groupe LDC. Alors dans l'une de ses marques phares, et là on peut dire que hein, le Gaulois, voilà. Ah. Et ils n'ont pas honte, ce grand groupe, donc quand vous arrivez sur leur page, de vous dire qu'évidemment, ils font tout pour les animaux, hein, que c'est de l'élevage durable. C'est vrai que quand on voit le poulet Le Gaulois, on sent que le mec, il a pu courir dans les prés. Et donc, je suis allé regarder, parce qu'il faut descendre quand même, il faut descendre dans les pages pour trouver, parce qu'au début, ils vous disent que bien sûr, tout est fait, qu'ils sont tous sous Mac Label, que des trucs magnifiques, du bio, du label rouge, machin. Et quand vous poussez un peu loin, ils vous disent que les animaux qui ont accès à un parcours en herbé, c'est 23% des poulets du groupe. Voilà. Donc j'espère que cette nouvelle cathédrale d'abattage qu'on va financer dans ces grands projets... Eh bien, sera un peu plus... Je ne sais pas, d'ailleurs.
Et... Comme partout, même chez les poulets, il y a des privilégiés.
Voilà. Quant à l'étourdissement systématique, puisqu'on parle d'usines d'abattage, ils en sont quand même à plus de 50%. Hein. Donc, quand même, il faut leur reconnaître qu'ils font des progrès. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez aller voir sur le journal des entreprises, toutes les autres entreprises. Alors, ils ne sont pas tout à fait toutes. Ils nous disent que la liste est non exhaustive. Ben, ça donne déjà une idée... On voit bien qu'en fait, c'est un espèce de grand coup de com où bon, on a pris des projets qu'on a décidé de plus ou moins subventionner. Mais enfin, tout ça m'a pas l'air très stratégique ni très sérieux. Madame Henriette, Madame Ginette d'abord. Quelle surprise, oui, quelle surprise.
Eh bien, bonsoir. Mais c'est facile d'enchaîner sur ça, tiens. Bravo, je ne vous félicite pas.
Non, ben c'est pas grave, non. C'est pas grave.
Vous parlez d'entreprises qui réussissent. Je voulais quand même parler d'un monsieur qui, malheureusement, s'est fait arrêter en Californie après avoir eu une idée flamboyante de petite entreprise qui lui a rapporté 30 000 dollars quand même.
Par jour ?
Non, 30 000 dollars tout court. Et en fait, il a eu l'idée en partant du principe des Legos. C'est-à-dire que bon, les Legos, on est d'accord que ça fait cher au kilo parce que ça reste du plastique.
Oui.
Mais... certains Legos sont rares, sont prisés par les collectionneurs et machin, etc. Et donc, il a eu une idée pour se faire de l'argent grâce aux Legophiles. À votre avis, qu'a-t-il fait ?
Des faux Legos avec une imprimante 3D.
Pas du tout.
Il est allé chourer des Legos chez des papy et mamie qui n'y voyaient plus rien.
Non, il a acheté des boîtes de Legos, normalement. Il les a ouverts avec beaucoup de délicatesse pour soit les vider, soit prendre les pièces les plus précieuses, les plus chères, les plus cotées. Et il a refermé les boîtes après avoir mis des nouilles dedans. Parce qu'au niveau du bruit et de la densité, c'est à peu près kiff-kiff.
Oh là là.
Et donc après, il les ramenait au magasin et il se les faisait rembourser, les boîtes.
Ah, pas bête.
Est-ce que c'est vraiment voilà, une voilà. idée d'entreprise ? Je ne crois pas.
Alors, ça a marché qu'un temps, on va pas se mentir.
Je vois pas quel serait le code NAF de cette activité.
C'est-à-dire qu'un jour, il y a quelqu'un d'autre qui a racheté la boîte et il s'est aperçu que c'était des nouilles.
Il a acheté des nouilles, exactement.
Eh oui.
Avec tout le problème pour les premiers, parce qu'après, forcément, comme c'était plusieurs boîtes, ils ont fini par prendre ça au sérieux. Mais les premiers, enfin, mettez-vous à la place, surtout aux États-Unis, pays des Karen et autres. Let me speak to your manager. quand vous ramenez une boîte de Lego en disant « Ouais, remboursez-moi, regardez, c'est des nouilles qu'il y a dedans. »
Oui, personne ne le croit. Bah oui, oui.
Voilà.
Et vous parlez pas de l'Américain qui, en plus, a passé 2 mois à essayer d'assembler les nouilles avec le plan Lego et qui n'y arrivait pas. Celui-là, vous l'oubliez.
C'est pas gentil.
Non, mais j'ai pas dit qu'il s'appelait Donald, alors, hein, s'il vous plaît, Monsieur Kogan.
Bon, enfin, c'est un coup fatal pour l'image de marque du Danemark.
Clairement.
Qui est passé pour un pays pas sérieux.
Ils y sont pour rien.
C'est ça. C'est ça. Je voulais aussi vous parler de la ville de Saintes en Charente-Maritime.
Oui, je connais très bien.
Dans laquelle un monsieur qui n'a pas été élu au municipal était très très vexé et a dû quand même malgré tout rapporter son matériel informatique. Et donc il y a eu une idée, quelle est-elle ? Il n'y a pas de nouilles dans l'histoire, ni de Lego.
Alors attendez, refaites, il avait du matériel informatique ?
Qui appartenait à la commune ?
Oui, il avait dans... voilà, qui appartient à la commune, sauf que là il n'avait plus de mandat, donc il a fallu qu'il les ramène, ce qu'il fit, mais...
Il a gardé le disque dur.
Non. Non, non, il a tout rendu.
Il y avait des trucs pas propres dessus ?
C'est ça, il les a d'abord frottés au fromage corse.
Oh ! Hein ?
Ah mais je pensais que M. Cohen, il pensait dedans, il pensait qu'il y avait des trucs pas clairs dedans.
Ah oui, d'accord. Oh la vache ! Ah oui, le gars est fâché.
Vous dites ?
Oui, donc ils sont inutilisables pour les siècles des siècles.
C'est ça, c'est ça.
Mais pourquoi du fromage corse s'il était à Sainte ?
C'est ce qu'il a trouvé
de
plus fort.
Parce qu'il avait envie de marquer le coup, hein ?
Ah oui, oui, oui. Eh ben...
Spoiler alert, ça a marché.
C'est parce qu'il n'y avait plus de maroilles chez le crémier.
Non, mais ils ne font pas le maroilles là-bas, Madame Henriette.
Non, ils ne font pas de fromage, Sainte.
Non, pas tellement. Ils font beaucoup de miel et de trucs avec des tournesols dedans, mais...
D'accord.
Mais non. Après, l'endure de miel de tournesol, ça aurait été une bonne perf aussi, j'avoue.
Évidemment, chers amis de Je m'ennuie bien, ne faites pas ça chez vous. On ne frotte pas son matériel informatique avec du fromage corse.
Ni celui de qui que ce soit.
D'ailleurs, on n'achète pas de fromage corse, c'est le mieux.
Oula, vous prenez des risques.
Oh,
waouh, wow. Ouais,
L'émission qui balance.
Le jacobinisme jusque dans le fromage, monsieur Edmond, c'est pas cool.
C'est juste pour les Corses.
Oui, alors non, monsieur Kogan, ça peut pas être du jacobinisme parce qu'il n'y a pas de fromage parisien, on est d'accord.
Bon, pour en faire tout un fromage, ils sont un peu les premiers.
C'est vrai.
Allez.
Une dernière, madame Ginette. Parlez-nous de la rêve et du pape François.
Mais voilà, c'est ça, ma troisième info était sur Buenos Aires où une rave party tout à fait officielle a été donnée en hommage au pape, effectivement, avec dans les gens qui ont mixé un cardinal qui apparemment est très versé dans les sciences du disjoking. Et voilà, parce que ce pape-là, de par ses positions et de par même depuis Jean-Paul II, l'image d'une certaine frange de l'Église catholique auprès des jeunes, eh ben, ça marche en fait. Ça marche, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes catholiques. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils n'écouteraient pas de la musique techno et de la musique électronique ?
C'est vrai, après tout. Hein. Il n'y a pas que nos jeunes qui doivent se péter les oreilles avec ces conneries.
Ça a été un gros moment.
Ah ben non, mais j'imagine.
Et voir un cardinal mixé, c'est étrange. C'est étrange.
Merci.
Mais oui,
Madame,
oui, c'est
Ginette.
Vrai.
Mais je vous crois sur parole. Oui, Madame Henriette, oui, ça voilà. Va être à vous. Vous nous abandonnez, Madame Ginette.
Mais tout à fait, je vous salue bien à bord.
Eh bien, c'était un plaisir de vous avoir
et
dans Je m'ennuie bien.
Et on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.
Exactement.
Salut.
Salut.
Alors, Madame Henriette, des nouvelles de Corée du Sud ?
Exactement.
Ah bah oui, non, mais on ne la fait pas.
Je salue avec joie et bonheur, pour une fois, hein, qu'il se passe quelque chose de chouette que l'on a envie d'annoncer. La sélection du troisième film de Julie Jung pour Cannes. Alors, Julie Jung, c'est une habituée hein, du Festival de Cannes. Alors, pour l'instant, elle n'est pas dans la sélection officielle. Elle a réalisé 3 films, cette réalisatrice coréenne. Donc, A Girl at My Door, en 2014, qui avait été sélectionnée pour Un certain regard. Alors, il y avait Bedouna dans A Girl at My Door, et puis il y avait Kim Seron qui, depuis, a disparu. C'était elle, la petite fille. Elle est morte très jeune. Elle s'est suicidée il y a un an, je dirais. Et
un film très dur, hein, quand même, précisons que c'est pas...
Un film très dur, tout à fait. C'est des films sociaux, hein, les films de Julie Jung. Le deuxième film qui avait été sélectionné, c'était pour la quinzaine des cinéastes et c'était Next Zoe qui avait été sélectionné en 2022. Et donc, cette année, dans la... je ne vais pas retrouver... Alors, c'est une autre sélection... C'est... Non, bon. Pardon, c'est la quinzaine... Excusez-moi. Nexoï, c'était la semaine...
Quinzaine des réalisateurs ? Non.
Oui, c'était la semaine de la critique pour Nexoï. Ah. Et la quinzaine des cinéastes, c'est Dora, donc le film qui sort cette année et qu'on va voir, j'espère, dans quelques mois sur les écrans. Alors, Dora s'est inspirée de l'étude de Freud. Qui porte sur une personne du même nom. Je ne connais absolument rien à la psychanalyse. Et donc, c'est une version, évidemment, qui se passe en Corée de nos jours. Et pour la première fois, il n'y aura pas Bedouna dans ce film de Julie Jung. C'est une ancienne star de K-pop qui s'appelle Kim Do-yeon qui a pris le rôle principal et qui jouera aux côtés d'une actrice japonaise très connue dont je ne retrouve plus le nom. Bravo, c'est vachement bien préparé.
Ouais, Madame Henriette, que vous faites
bien,
là ?
C'est pas bien du tout. Hein.
Alors, je peux vous dire en attendant que Madame Henriette avait adoré Nexoï parce que voilà, c'est le monde du travail en Corée.
Ouais, c'était extraordinaire ce film. Donc, j'attends beaucoup de Dora.
Ça y est, c'est retrouvé cette actrice japonaise ?
Elle s'appelle Ando.
D'accord.
Voilà.
Peut-être certains la connaissent. Hein. Il y en a qui sont versés en cinéma japonais.
Voilà.
Pas moi.
Et donc,
elle a
joué, elle a joué avec Kore-eda Hirokazu.
Ah oui, des pointures du cinéma asiatique.
Voilà, donc, après, une autre brochette d'acteurs que les amateurs de drama coréens reconnaîtront, puisqu'il y a quand même quelques noms connus là-dedans. Mais en tout cas, je suis absolument ravie de retrouver la trop rare Julie Jung.
Donc, il n'y a pas Chahun Woo, c'est ce que vous voulez
dire.
C'est
une coproduction, d'ailleurs, entre la France, la Corée du Sud et le Luxembourg. J'avais entendu une longue interview de Julie Jung qui expliquait qu'elle avait beaucoup de mal à financer ses films et elle passait beaucoup plus de temps à chercher des financements qu'à tourner, puisque comme elle avait des financements en général assez réduits, le tournage était court. Et donc, une coproduction cette fois-ci. Et j'espère qu'on le verra sur pas mal d'écrans français. En tout cas, ça me ferait beaucoup de peine de ne pas le voir. J'ai encore un petit peu de temps.
Mais oui, allez-y, Madame Henriette.
Alors, je vous amène au Japon. Au Japon, où une véritable institution s'écroule dans l'indifférence générale, les Yakuza. Pour la 21e année consécutive, le nombre de Yakuza a baissé.
Mais qu'est-ce qui se passe ?
C'est terrible. Il y avait, à la fin des années 2000, probablement 80 000 Yakuza. Il en reste à peine 17 500.
C'est-à-dire, les jeunes, ils ne veulent plus se faire couper les doigts ?
Exactement, exactement. Alors, il y a le vieillissement de la population, hein. Il y a aussi des lois anti-gangs qui, quand même, fonctionnent pas mal a priori. Mais surtout, le crime professionnel est rattrapé par l'amateurisme. Et oui, parce que ce qu'on appelle au Japon les Tokyoru, qui sont des espèces de temps partiel de l'arnaque, et donc qui officient beaucoup sur Internet, sont devenus la nouvelle forme de criminalité. Alors, ce n'est pas une forme de criminalité organisée comme les Yakuza. On n'est pas sur de belles entreprises avec des hiérarchies, avec une culture d'entreprise. Ouais, voilà. Oui. Non, là, on est sur du bricolage. C'est pas sérieux. Et donc.
Et donc,
alors,
ils ne réagissent pas, les Yakuza ? Ils ne font pas des campagnes de pub ?
C'est pire que tout, figurez-vous. C'est qu'ils ont, renoncé, c'est-à-dire qu'ils sous-traitent maintenant à ces Tokyoru. Hein. Ah non, mais. Tout se perd, l'amour du métier, il n'y en a plus, mon bon monsieur, même au Japon. Voilà. Donc, eh bien, la police a, a toujours beaucoup de criminalité à traiter, mais je vous dis, on n'est même plus face à de vrais artisans formés. C'est tragique.
C'est embêtant quand même pour le cinéma et la littérature polar japonaise. Là,
ah ben bah oui, là, parce que
c'est
des espèces de petits. Alors c'est des petits voyous minables qui sont derrière un écran et qui font des arnaques comme on peut le deviner, du trafic de drogue, tout ça. Mais enfin, voilà, il n'y a plus rien de.
Donc j'imagine que même
il n'y a plus rien de la tradition. Voilà.
Même les tatoueurs sont inquiets.
Ben bien
sûr.
Le chiffre
d'affaires va baisser.
Ah
là.
Non, mais là ce sont des faillites en cascade. On n'imagine pas. Et puis bon, au niveau de la, c'est pareil, des compétences, notamment en arts martiaux, en maniement du couteau, tout se perd puisque maintenant les gangs de yakuza règlent leur compte dans des fusillades.
Oh là 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 là.
Oh.
Bon, mais je crois que je vais passer un petit SMS à M. Macron, voir s'il ne peut pas leur faire un grand projet industriel, là, parce qu'il faut relancer ça quand même.
Hein, voilà. Et ça, personne n'en parle.
Bah, ah non, ça c'est vrai. Moi, j'ai lu nulle part qu'on nous parlait de, non,
voilà.
de la
bon.
Désaffection.
Je l'ai lu dans The Japan Times, si vous voulez tout savoir.
Ah oui, mais vous êtes pointue, Madame Henriette, quand même.
Avec les Yakuza, vaut mieux éviter d'être pointue. Un accident est très vite arrivé, vous savez.
Allez, ben on passe la parole à notre Yakuza à nous.
Oh non.
Monsieur Kogan.
Alors, je précise quand même que nous venions de faire un peu d'ironie, là, hein, quand même, pour les auditrices et les auditeurs, oui, bien voilà. entendu.
Oui, si vous êtes même... nouveau, ça a dû être difficile.
Non, c'est vrai que
Monsieur
Kogan est notre samouraï de la culture.
Oui, bien entendu. Mais toutefois, je sais me servir d'un katana, mais je n'en fais pas usage pour couper les doigts de mes affidés. Donc, sinon, attention à vous. Alors,
et on vous en sait gré.
Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui ? Je dois dire que c'est un petit peu confus dans ma tête, mais peut-être que c'est lié aussi au premier film dont je vais vous parler. Puisque le premier film dont je vais vous parler ce soir s'appelle « Good Luck, Have Fun, Don't Die ». Je suis persuadé que si vous avez vu la bande-annonce ou l'affiche de ce film, vous n'êtes pas étonné que je vous parle de ce film aujourd'hui. En effet, Gore Verbinski, ce n'est pas un nom tout à fait inconnu du cinéma mondial, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il n'avait rien réalisé depuis 2017 avec A Cure for Life. Le directeur des trois premiers Pirates des Caraïbes était-il rouillé ? Bonne question. Eh bien, je répondrai non. Mais voilà, le public ne se bouscule pas pour son nouveau film, peut-être parce qu'il est très décalé. Et c'est bien dommage, car avec cette histoire, avouons-le, un peu folle, comme son titre l'indique, d'un gars habillé comme Bruce Willis dans l'armée des 12 singes, et évidemment, ça s'explique, qui débarque donc dans un diner et qui tente, visiblement pour la 117e fois, venant du futur, de former un commando forcément foutraque afin d'empêcher l'IA, la technologie, etc., à travers un gamin un peu étrange, de prendre définitivement le contrôle du monde. Bon, et ben voilà, si vous n'êtes pas accroché dès le début avec tout ça, à moi la peur. Et les références s'enchaînent à l'appel. Évidemment, celles dont je viens de parler, l'Armée des 12 singes, mais aussi La Nuit des morts vivants. On pense aussi à plusieurs films de Spielberg, mais aussi aux sitcoms pour ados. Enfin bref, tout ça est passé à l'acide et on en redemande. Sam Rockwell est extraordinaire, j'allais dire comme toujours.
Est-ce qu'il danse ?
Comment ?
Est-ce qu'il danse dans ce film ?
Quasiment, puisqu'il saute de table en table à un moment, donc il est capable de tout. Et vous allez me trouver partial si je vous parle de lui, mais je crois que vous l'aimez bien aussi. Donc, mention spéciale aussi pour l'actrice Juno Temple, qui fait très fort. Donc, de la bonne comédie, SF fantastique d'action, comme vous voudrez. En tout cas, un retour réussi avec, bon, faut l'avouer, hein, une critique de la société déshumanisée et consumériste. Voilà, comme quoi, il y a encore des gens qui font bien leur travail de l'autre côté de l'océan Atlantique. Alors, le deuxième film, là, on revient plutôt en Europe, puisqu'il s'agit du film de la réalisatrice barcelonaise Carla Simón, Romería. Alors, Romería, rappelons que cette réalisatrice avait, pour Nos Soleils, été titulaire de l'Ours d'Or à la Berlinale de 2022. Alors, comment parler de ce film catalan, hein, puisqu'elle y tient, qui commence donc par le voyage donc d'une jeune fille en 2004 qui vient de Barcelone et qui va en Galice voir la famille de son père pour un document, pour une histoire de bourse à la fac, un truc très très simple. Hein. Et puis en fait, elle découvre le passé très compliqué donc de ses parents qui sont morts, mais elle ignore tout sur son père alors qu'elle était donc enfant. Et donc elle comprend, alors elle s'en doutait qu'ils étaient morts tous les deux du sida ou de quelque chose d'approchant, mais voilà, l'histoire mêle donc deux époques, celle de ses parents beaux, amoureux, mais disons-le franchement drogués, et la sienne en quête d'une vérité, pas si facile que ça à se dévoiler. Et donc un film qui devient de plus en plus étrange, disons-le aussi un peu poétique, au fur et à mesure que l'histoire avance. On entend parler catalan, on voit un peu de culture galicienne, et l'actrice Lucia García est lumineuse dans ce que je crois être son premier film, hein, en tout cas son premier long métrage. Voilà, sinon, pour parler d'autre chose, eh bien...
J'ai juste un mot sur ce film. Effectivement, j'ai vu la bande-annonce de celui-là tout à fait par hasard, et c'est vrai que ça donne envie d'aller le voir, parce qu'en plus, c'est très très bien filmé, de très belles images.
Absolument, et il y a plusieurs grains, vous verrez, en fonction des époques, en fonction des moments, en fonction de ce qui est de la réalité ou ce qui n'en est pas, et c'est très chouette. Il y a même un chat qui je trouve plutôt intéressant, et c'est pas banal de ma part de dire ça.
Oui, c'est enregistré, alors, Monsieur Cogan.
Monsieur Cogan, je suis désolée, mais là, vous êtes en train de sombrer. Ça fait deux fois en quelques mois que vous nous dites votre intérêt pour un chat. Quelque chose se passe, hein. Il y a quelque chose de pourri au royaume de l'anti-félin.
C'est ça. Vous comprendrez, évidemment, quand vous verrez le film, si vous le voyez. Et donc, pour parler d'autre chose, donc, évidemment, je ne peux pas ne pas parler du fait qu'on en est à plus de 200 auteurs donc, qui quittent, vous l'avez vu, vous l'avez lu, vous l'avez entendu, donc Grasset, suite au licenciement d'Olivier Nora. Alors, bon... Grasset, figure de proue de l'extrême droite, c'est pas nouveau. Hein. Je rappelle quand même que Grasset, pendant la guerre, il publiait pas des tracts pour la résistance. Voilà.
Bon, alors, ça, c'est dit. Excusez-moi, mais vous parliez du licenciement d'Olivier Nora. Est-ce qu'il avait enlevé ses chaussures?
Ah, ça, bonne question.
Ben
bonne
oui,
question.
C'est peut-être ça l'histoire.
Peut-être, je suis pas sûr que ce soit lié. En tout cas, c'est donc la guerre culturelle. Hein. Celle menée par Bolloré, Stérin, Allonc, Le Pro, etc. Même si Virginie Despentes déclare, puisque c'est la figure de proue un petit peu hein, de ce mouvement, déclare « ce n'est pas une guerre, c'est de la prédation ». Et donc, je vous renvoie aux interviews qu'elle a données, là. Essayez d'aller voir ça si vous ne l'avez pas fait. C'est très intéressant, en tout cas, la posture qu'elle prend. Voilà, et c'est assez courageux. Mais ce n'est peut-être pas cela sur lequel je voulais insister, puisque dans ce cadre de guerre culturelle, il y a en face quelqu'un pour qui je ne cache pas mon admiration, qui est Joan Chapoutot. Et Joan Chapoutot a fait une déclaration ces derniers jours, quelque peu musclée, tout en restant dans le cadre d'un vocabulaire raffiné, hein, un historien et un germanophile tel que lui ne peut pas faire autrement, mais quand même, il a évoqué l'organisation de la panthéonisation de Marc Bloch. Alors, nous y reviendrons, je pense. Hein. Et donc, il a évoqué un report de date de cet événement qui donc est un événement officiel, national. Et donc, il y a eu un report de date qui donc décalerait l'organisation de cet événement qui était prévu pour être le jour anniversaire de la mort de Marc Bloch. Et évidemment, c'est lié au fait que le président Macron, qui doit donc évidemment présider cet événement, faire un discours, etc., pour saluer la mémoire de ce grand historien et grand résistant français, eh bien, Chapoutot explique que Macron a décalé l'événement parce que Trump devait assister à un match de boxe à Washington et donc il décalait la réunion du G7. Voilà, voilà. Et donc Chapoutot, qui utilise rarement le registre et le champ lexical de la vulgarité, a s'est laissé aller à traiter donc le président de la République de serpillière. Et pour le coup, je crois bien qu'il a raison. Mais voilà, je ne voulais pas du tout heurter qui que ce soit dans ma prise de position ce soir, bien entendu.
Après, j'ai envie de dire, M. Kogan, que malheureusement, il n'est pas le seul à faire pour l'instant tout ce que dit Trump et à se coucher sur ses déclarations les plus accabrantesques. Donc bon, c'est malheureux, mais pour l'instant, on en est là.
C'est bien le problème. Et pourquoi Chapoutot dit ça ? Bien sûr, c'est qu'il fait référence aux années 30 et au fait qu'un certain nombre d'hommes politiques européens et américains se sont, surtout européens, mais se sont couchés devant les hommes forts de l'époque, en l'occurrence le premier d'entre eux, Adolf Hitler. Et donc, c'est quand même très problématique que des hommes politiques ne soient pas capables de comprendre ça et ne soient pas capables de résister, surtout quand il s'agit de la panthéonisation d'une figure telle que celle de Marc Bloch. Voilà, donc je suis un petit peu en colère et un petit peu d'accord, pour ne pas dire beaucoup, avec Joanne Chapoutot.
Non, mais en plus, le G7, ça sert encore à quelque chose, le G7 ?
Eh bien, je ne crois pas, non.
Parce qu'en plus, visiblement, quand ils font des réunions internationales, maintenant, on a le droit de parler de rien. Donc, je ne sais pas pourquoi ils font des réunions internationales.
C'est ça, c'est ça. Bon. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voulez quelques noms ?
Oui, oui, faites-nous quelques disparus.
Eh bien, oui, alors, parmi ces disparus, il y a des noms qui vous viennent, bien sûr, depuis quelques jours, mais il y a des noms moins connus. Alors, je voulais parler, évidemment, de certains musiciens. Alors, par exemple, Michael Tilson Thomas, qui était un compositeur et chef d'orchestre américain, ou encore la danseuse et chorégraphe Claude Bessy, hein, qui était une figure de la danse française. Et puis aussi Osvaldas Balakauskas, qui était un diplomate et un compositeur, c'est original, de musique symphonique lituanienne. Et je pense aussi, bien sûr, à David Mason. Alors, David Mason, peut-être son nom ne vous est pas totalement inconnu, puisque c'était le guitariste d'un groupe de prog des années 60-70, en l'occurrence Traffic, mais c'est aussi un garçon qui a joué avec Hendrix, Fleetwood Mac, Harrison et McCartney, bien entendu. Parmi les autres noms, j'ai pensé aussi à des auteurs hein, qui ont décidé de filer à l'anglais, si je puis dire. Un personnage aussi assez intéressant, hein, Dominique Doué, qui était un grand écrivain de science-fiction français et qui avait accessoirement été aussi un peu dans les affaires d'État, puisqu'il avait été directeur de cabinet de Georges Filiou. Alors, je vous parle de ça, c'était les années 80, mais c'est un garçon qui a été publié chez Fleuve Noir, chez De Noël, au Mouton Électrique, etc. André de Muralt était un philosophe suisse. Ilse Troado était une philosophe franco-allemande. Bernard Eliade, un écrivain. Sophie Flamand, une écrivaine. Et scénariste belge, quelqu'un d'un petit peu compliqué, je mets des grosses guillemets. Kevin Close était un écrivain canadien, Serge Labégor, un peintre expressionniste, alors je ne savais pas qu'il y avait encore des peintres expressionnistes, moi. Et Béatrice de Mouzard-Gurchel était une éditrice hispano-brésilienne, David Malouf, un écrivain australien. Mais avant d'en arriver au cinéma, un personnage... personnage important pour ma mouvance, on va dire, mais un personnage important tout court. Daniel Lormont était un conteur périgourdin, un auteur de nombreux ouvrages. Il avait 71 ans, ce qui n'est pas très vieux. Et alors, je vais citer une phrase de lui, une petite citation donc, de Daniel Lormont. Il disait « Le sage ne dit rien. On prête ses mots à Confucius. » On prête beaucoup à Confucius. On prête surtout à Confusion. Voilà. C'était.
C'est très mignon. C'est très mignon. J'aime beaucoup.
C'était pour vous dire. Voilà. C'était ce genre de personnage. Dans le monde du cinéma, évidemment, il y avait une actrice philippine, là, Sue Prado. Luis Penzo était un réalisateur argentin qui avait eu l'Oscar du film étranger en 86 pour son film assez fort, Histoire officielle. Mais c'est difficile de ne pas parler, évidemment, de deux actrices françaises. La première d'entre elles, Nadia Farès, qui avait 57 ans et qui est morte d'un truc complètement stupide, apparemment, hein, un malaise cardiaque dans une piscine. Bon, bref. Cette actrice d'origine marocaine et arménienne avait tourné pour Lelouch, pour Kassovitz, hein, Les Rivières Pourpres, et pour Bernie Bonvoisin, Les Démons de Jésus. Et moi, pour moi, ce film est évidemment un de mes préférés. Voilà. Mais tout le monde a parlé, et nous qui avons quelques accointances avec la Creuse, n'est-ce pas, elle en avait aussi, de l'actrice Nathalie Baye. Alors, Nathalie Baye, eh bien, écoutez, que dire de cette actrice qui avait 77 ans, ce qui n'est pas très vieux, et elle meurt d'une maladie assez compliquée, assez douloureuse, assez difficile. Elle avait tourné dans 80 films, elle avait eu 4 Césars et de multiples autres, évidemment, décorations, félicitations, honneurs, etc. En tout cas, prix. Et en tout cas, Nathalie Baye... Eh bien, écoutez, je vais préférer retenir qu'elle s'était engagée pour le droit à mourir dans la dignité plutôt que pour Depardieu, mais notons qu'elle avait bien sûr tourné avec Depardieu, comme elle avait tourné à peu près avec tout le monde, hein, en 80 films, et qu'un de ses meilleurs films est sans doute un des films qu'elle avait tourné avec lui, en l'occurrence Le Retour de Martin Guerre. Mais Nathalie Baye, c'est aussi, et ça restera pour moi, cette enquêtrice... compliqué du petit lieutenant, voilà, et rien que pour ça elle mérite tout notre respect. Je finirai avec Dean Tavoularis. Alors Dean Tavoularis, c'est un de ces hommes de l'ombre, le chef décorateur, il avait 93 ans, de tout un tas de films, alors surtout de Francis Ford Coppola, en fait de tous les films de Coppola à peu près, hein, voilà,
un garçon qui aimait la sobriété, donc.
Comment ?
Un garçon qui aimait la sobriété, probablement.
Oui, bah oui, c'est sûr que quand on fait la déco de Bonnie and Clyde et d'Apocalypse Now, voilà, ça y va.
Ou de Dracula.
Mais c'est vrai que ce personnage aura comme ça tourné pour fait la déco de beaucoup de chefs-d'œuvre. Voilà. Écoutez, ben voilà, je peux vous donner éventuellement quelques dates.
Je ne sais pas si Madame Ariette ne voulait pas ajouter quelque chose, non ?
Alors non, moi juste, je l'ai entendu parmi les hommages. Moi, j'ai été impressionnée par la dignité du discours de Nathalie Baye, qu'on a beaucoup entendu à l'occasion d'une remise de César, je pense. Oui. Où voilà, où elle avait été d'une grande élégance en évoquant justement l'injustice des choix de casting pour les films, voilà, et où elle avait dédié son prix à toutes les actrices qui ne jouent pas et qui le mériteraient.
Oui, bien entendu. Alors, je ne voudrais pas oublier deux noms. En l'occurrence, Patrick Muldoon, hein, qu'on avait vu entre autres dans Starship Troopers, qui n'était pas très âgé non plus, et qui était un acteur de sitcom plus qu'autre chose, mais quand même. Et puis Desmond Morris, qui était un écrivain et un zoologiste méconnu, voilà. J'en oublie sans doute, mais bon, c'est comme ça.
Alors, Starship Troopers, que je recommande, un très bon film, hein, qui est tout à fait dans ce que nous a fait Madame Ariette sur les Yakuza.
Ah ben, tout à fait.
Mais ça n'a rien à voir, il n'y a pas de Yakuza dans Starship Troopers.
Non, mais c'est le même humour.
Mais c'est un film de second degré.
Voilà, et de circonstances.
Et de circonstances, bien sûr. Alors, sinon, peut-être qu'on peut évoquer ensemble quelques dates, si vous en êtes d'accord. Alors, ce week-end, parmi les gens qui feront des dédicaces, alors, mon ami Nicolas Bouchard sera en dédicace samedi à Page et Plume, mais il ne sera pas seul, puisque Jean-Denis Pendanks sera là. Alors, c'est un livre peut-être plus jeunesse. Et puis, sinon, côté musique, alors, il y a des choses intéressantes. Alors, vous avez un live chez mon disquaire. Alors, c'est la chanteuse Jaden Dove qui sera à Point Chaud, lieu mythique de la musique à Limoges. Voilà, magasin indépendant. Le festival alternatif donc au Chastan, j'en avais parlé la semaine dernière, donc avec Flanagan par exemple ou Seven Sky, et donc ce petit festival donc en Corrèze ce week-end. Fêteront aussi les 8 ans de la locale, hein, un lieu rue de la Boucherie qui est assez sympathique, et puis que les musiciens trad connaissent bien puisqu'il y a souvent des boeufs. Une rencontre avec Guillaume Aubin, Paysage Vorace. Cette rencontre a lieu à la Souterraine, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc c'est un auteur voilà, qu'il faut découvrir, et c'est à la librairie L'Apothicaire, bien entendu. Parmi les autres événements, je voulais vous parler évidemment de House Armada qui jouera ce samedi au Limoges. Jasmine, je ne sais pas comment on dit, ils joueront à la Croix, rue de la Croix-Rouge, c'est-à-dire à la Ruchidée, vous connaissez ce lieu. Et puis d'autres dates, le Quatuor. Winston jouera à la brasserie du Charou, hein, c'est pas très loin de Limoges, donc samedi 25 avril, oui. Le cabaret d'impro, donc rue Louis Lagrange, hein, donc je voudrais pas me tromper. Ça s'appelle, c'est un cabaret qui est organisé par l'association Le Troquet Culturel. Voilà, j'avais déjà évidemment beaucoup parlé de cet endroit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À Souffle Suspendu, eh bien écoutez, à Souffle Suspendu, ça se passe à Boussac, donc c'est en Creuse, et c'est un spectacle, enfin c'est de la musique, Sophie Delizet à la voix et Gérard Fabiani à la clarinette basse, avec un texte de Bernard Noël. Donc ça c'est quand même organisé par une troupe qui s'appelle le Théâtre d'Or, voilà. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais je suis curieux de savoir. Parmi les autres choses, A Lonely Place au Théâtre de l'Union. Voilà, c'est un des derniers spectacles de l'année, mardi 28. Trac, alors Trac, c'est Ruja, alors c'est à Bellac, évidemment, hein, la compagnie La Boîte à Sel, c'est au Théâtre du Cloître, mercredi 29 avril, et je crois que c'est à 17h, je crois que c'est un peu tôt. Sernia, c'est du rock fusion, et T-Rex joueront au Dropkick Murphy samedi à 21h. Voilà, ça je l'avais oublié, donc je le rajoute dans ma liste. Alors, un écrivain japonais, puisqu'on parle souvent de l'Asie dans cette émission, sera en Haute-Vienne la semaine prochaine. Alors, Akira Mizubayashi sera donc le 29 avril à 19h à Page et Plume. Mais je vous conseille de passer avant, vous inscrire. Voilà. Puisque ça doit être assez restreint en termes de place. Un jam manouche au Limoges, mercredi 29 avril à 19h30. Vous avez aussi les Chaotic Food Stompers qui joueront à 19h30 jeudi 30 avril. Étienne et Lars, eux, seront au Troquet Culturel, donc toujours le 30 avril à 20h. Et évidemment, on en a beaucoup parlé la dernière fois, mais il y a toujours le festival Urban Culture en Creuse, à Guéret.
Tout à fait.
Et donc, entre autres, le dernier soir, je crois, c'est le 30 avril, je crois, et c'est à 20h, là, une affiche importante avec 2L, Demi Portion et Mantis, donc c'est à la Quincaillerie, à 20h, un concert de l'orchestre universitaire à Limoges avec le soliste Félicien Bru, et donc ce concert aura lieu à 20h, Centre culturel Jean Gagnant. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme date? On commence à en avoir pas mal.
Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout, je crois que Madame Henriette a aussi une date à nous proposer.
Alors, plusieurs. Pour compléter, donc, sur le Festival Urban Culture, ça se passe également à Guéret. Et donc, le dimanche 26 avril à 15h, vous aurez un battle national de danse hip-hop. Voilà.
Alors, l'année dernière, c'était complet. Hein, donc là, il faudrait peut-être se rapprocher du festival, voir s'il est possible de réserver, parce que je sais que l'année dernière, ils ont refusé du monde.
Entrée libre.
Eh oui, bah, alors je ne sais pas comment on fait. Ouais. Bah, il faut arriver tôt, quoi.
Mais vous êtes d'un pessimisme.
Ah bah oui.
Et le mercredi 29 avril, il y aura une conférence spectacle, une petite histoire du hip-hop par Balour. Et c'est à l'auditorium de la bibliothèque multimédia de Guéret. Et puis un autre événement qui n'a rien à voir avec le festival Urban Culture, c'est une conférence qui sera proposée le 28 avril par la librairie Vie Minuscule. Ce sera la salle Chaminadour, toujours à Guéret, à 18h. C'est une conférence d'Alexis Génie, prix Goncourt 2011. Et c'est une conférence qui portera sur Francis Allais. Alexis Génie a publié aux éditions Paulsen un livre qui s'appelle « Un naturaliste sur le toit de la forêt », Francis Allais, raconté par Alexis Génie. Il y a des chances que cette conférence soit tout à fait passionnante. Donc 18h le mardi 28 avril à la salle Chaminadour à Guéret.
Bien sûr, alors je ne voudrais pas oublier certains trucs dont j'avais promis de parler. Au Dropkick Bar, dimanche 26, il y a un petit concert apéro avec Tipeee, c'est un duo punk garage, et le groupe Day After Day. C'est à 17h, c'est le dimanche. Ouais, c'est plutôt chouette comme type d'événement. J'avais aussi promis de parler d'un concert de printemps qui a lieu samedi 25 avril à la salle des fêtes de Saint-Victurnien. Là, c'est l'harmonie municipale de Limoges et donc qui joue le samedi et le dimanche en journée.
Qui donc se délocalise à Saint-Victurnien.
Eh oui, parce que, alors je ne voudrais pas polémiquer, mais il y a
ne polémiquons pas.
un problème avec l'harmonie municipale de Limoges. Et Arlan Tebobo, là c'est un peu plus dans nos tripes, hein, puisque c'est de la folk country. Et donc Arlan Tebobo sera à l'international vendredi 1er mai à 20h. Voilà, et là n'oublions pas qu'il y a la journée nature des herbes folles samedi 2 mai à Paja. Là, c'est un petit peu moins culturel, mais quoique. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vais m'arrêter là.
Mais c'est très bien. Arrêtons-nous sur les herbes folles. J'aime beaucoup. Alors, on dédicace cette émission à toutes les herbes folles. Allez, c'était Je m'ennuie bien. On vous dit à la semaine prochaine.
Très bonne semaine à tous.
Tant des fleurs où l'on vivait sans peur, où chaque jour avait un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait. Et la chanson que la nuit m'apporte, mon cœur déjà ne la connaît plus. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Le lendemain avait un goût de miel, ton bras prenait.